Nous avons interverti les soirs avec Patricia à cause des sujets traités. Je voulais amener quelques précisions quant à la dernière partie de l'exposé que j'ai donné l'autre soir. Et Patricia abordera un autre thème demain soir. Donc, dans l'exposé que j'avais donné, le dernier, j'ai parlé des trois niveaux de pratique en parlant du niveau fonctionnel qui est le niveau habituel, le niveau de fonctionnement. Niveau qu'on connaît bien, qui est le niveau de la vie quotidienne. Et puis le deuxième niveau, qui est le niveau de la présence, où à ce moment-là, on revient sur soi-même en tant que sujet qui éprouve les expériences, qui est là dans les vécus. Et que cette qualité dans la pratique, dans la méditation ou dans la vie, permet d'aborder le troisième niveau, qui est le niveau vipassana à proprement parler, donc de vision claire ou profonde de la réalité, ou d'expérience de la réalité, et que ceci permet de réaliser certains aspects de la nature du monde dans lequel nous vivons, et c'est aspects-là sont l'impermanence, l'aspect impersonnel et aussi le fait que une existence conditionnée laisse toujours à désirer. J'aimerais revenir ce soir sur la première caractéristique qui est celle de l'impermanence. Donc en abordant ces sujets qui sont quand même, quand on parle des trois caractéristiques, les sujets les plus profonds de la pensée bouddhique, même si quelquefois, évidemment, ils sont un peu subtils ou compliqués. Je crois qu'on a ici l'intention, soit Pascal, Patricia ou moi-même, de donner toute la richesse de la tradition méditative et de ne pas simplement simplifier et d'exprimer que ce qui est facile à comprendre, mais peut-être quelquefois ce qui est un petit peu plus difficile à comprendre, mais qui montre toute la richesse de la tradition bouddhique, du chemin de méditation, et aussi, parce que richesse, finalement, on s'en fiche un petit peu, mais l'utilité, c'est qu'évidemment, ça implique une plus grande liberté. Et ce qui nous intéresse dans la découverte de ces caractéristiques, c'est qu'elles s'accompagnent d'une plus grande liberté. Et c'est ça que nous avons comme enjeu, dans le fond. Au début, nous avons dit ce dont il s'agit dans une retraite de méditation, c'est vous-même, mais c'est aussi votre propre liberté, notre propre liberté. C'est ça qui nous intéresse. Shantideva, le grand maître du bouddhisme indien, disait, c'est très difficile d'enseigner, parce que si on dit aux gens, on leur explique ce qu'ils croient déjà, ça ne leur sert à rien du tout. Mais si on questionne leurs croyances, alors à ce moment-là, ils en veulent. Donc c'est difficile. Ou bien on leur dit, voilà, vous avez tout à fait raison dans cette vision du monde habituel. Ou bien on dit peut-être que c'est pas tout à fait juste. Alors à ce moment-là, les gens se braquent dans le fond. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un défi. Et je crois que la notion d'impermanence a aussi un peu cet aspect de défi. Mais si on peut imaginer que la méditation peut ouvrir à une liberté inconditionnée, quelque chose évidemment qu'on a un peu de peine à s'imaginer. Il faut bien imaginer que d'une certaine manière, cela implique une vision différente du monde. Alors est-ce qu'on veut s'engager dans une vision différente du monde ou bien on veut garder la même? Vous voyez, on voudrait changer, mais il ne faut rien changer. On devrait bien changer pour que ça puisse aller dans le sens d'une liberté, mais il ne faut quand même pas trop changer les choses. Vous voyez, on est dans la prison. Est-ce qu'on va. Les portes s'ouvrent, est-ce qu'on va aller vers l'extérieur? Ça a l'air drôlement bien, mais je ne voudrais quand même pas laisser mon canapé ici, ma télévision, etc. Et puis, il y a un programme, je voudrais juste le voir avant. Et puis voilà, on s'attache dans le fond à ce qui nous donne des certitudes et qui, dans le fond, nous alourdit, nous enferme. Si on veut s'attacher à ces liens, c'est assez difficile de s'en défaire. Et quand on parle de ces caractéristiques, impermanence, impersonnalité ou insatisfaction, on a toujours l'impression que surgissent des remarques. Oui, mais, il y a des exceptions, il y a quand même ceci, mais dans ce cas-là, etc. Et finalement, avec une difficulté à vraiment questionner cette vision que nous avons du monde. Donc j'aimerais ce soir, non pas tellement démontrer, même si je vais quand même utiliser un petit peu la raison, mais essayer de montrer quelque chose, montrer cet aspect de l'impermanence, parce qu'il me semble qu'il a quelque chose de l'ordre d'une grande liberté, d'une grande légèreté. Maintenant, je ne sais pas exactement comment le faire. Démontrer rationnellement, ce n'est pas tellement difficile, mais essayer de le donner à voir, à percevoir ou à sentir, ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc, on entend parler dans la tradition bouddhique, pas uniquement d'ailleurs, c'est pas elle qui a enseigné, la seule qui aurait enseigné l'impermanence, on la trouve dans toutes les philosophies. Mais on la trouve constamment venant dans la tradition bouddhique, dans les sutras, etc. Et puis, je me demande si on entend vraiment ce qui est dit. Ah, d'accord, l'impermanence, ouais, c'est tout change, ouais, c'est un peu triste et autres, mais bon, sans vraiment. Se rendre compte qu'est-ce que ça change dans la vision du monde. Si le monde est impermanent, ça change vraiment quelque chose. Dans la vision du monde et évidemment dans la manière d'être pour nous. Dans un des textes les plus célèbres peut-être du bouddhisme, le Dhammapada, phrase très simple. Il dit laisse le passé, laisse le futur, laisse le présent. C'est sans ambiguïté. Laisse le passé, laisse le futur, laisse le présent. Donc la notion d'impermanence dans le bouddhisme, elle est liée à la notion d'instantanéité. C'est d'instant en instant. Ce n'est pas une impermanence parce que les choses ne seraient pas éternelles. Donc on aurait une vie qui se déroule du point A, qui est à peu près la naissance ou au moment où on est conscient, jusqu'au point B, c'est le moment où on disparaît, et puis on aurait cette durée dans laquelle, dans le fond, on voyagerait, et puis après, on toucherait l'impermanence avec la mort. Vous voyez, c'est cette vision de spatiale, presque de la temporalité, dans laquelle voilà, on est là sur le parcours de la vie, on est à ce point-là, on est à ce point-là, on est à ce point-là, puis on. C'est pas exactement où est l'autre, mais enfin, on est à ce parcours-là. Ce qui est évidemment un peu bizarre dans cette représentation, c'est qu'on a l'impression que tout existe simultanément. Le point A et le point B existent simultanément, puis on est là, mais cette partie-là, elle existe, celle-ci, elle existe. Bon, c'est pas juste qu'on est à ce point-là, mais enfin, c'est comme si tout le reste existait. Donc, on est dans d'une pseudo-impermanence, puisque dans le fond, ça c'est très permanent, tout existe en même temps. Dans une notion de temps qui a une certaine solidité, une certaine durée. Et ça, c'est extrêmement pesant. C'est extrêmement lourd, extrêmement conditionnant. D'abord, imaginez tout ce passé qu'on doit se trimballer constamment, ça fait pas mal, plus un futur qui est quand même assez indécis, mais qui peut aussi amener de l'inquiétude. Ça fait beaucoup de choses pour un seul instant. Beaucoup de choses à assumer. Et là, quand on questionne ceci, on dit oui, mais j'aurais quand même gardé un peu du passé, et puis quand même un peu l'avenir. Voilà, donc finalement, on récupère tout le fardeau. Je veux bien être léger, mais je voudrais quand même porter tout ceci. Dans les textes, on parle de cette instantanéité. On la compte à partir d'un claquement de doigts qui, je ne sais pas quelle fraction de seconde est la durée d'un claquement de doigts. Et on dit il y a 60 instants ou 120 instants. Enfin, ouais. Donc c'est quelque chose d'immensément court pour les traditions qui essayent de mesurer ceci. Donc tout surgit et disparaît, tout surgit et disparaît d'instant en instant. Rien ne dure, comme je l'ai mentionné l'autre jour. On ne peut pas passer en contrebande quelque chose de l'instant passé qui viendrait dans le présent, qu'on essaierait de prendre avec soi dans le futur. Surgit un instant et disparaît, surgit et disparaît. Maintenant, ce n'est pas que nous sommes un observateur, une observatrice stable. On voit les choses qui changent. Nous sommes nous-mêmes cette vie qui surgit et qui disparaît d'instant en instant. Donc, ce que je voudrais aborder un peu, c'est en utilisant les réflexions, c'est dans le fond essayer d'amener à douter de cette vision, de cette temporalité qui s'inscrit dans la durée. La réflexion, ici, pas tellement pour prouver quelque chose, si ce n'est que pour montrer peut-être que la manière dont nous adhérons à la temporalité, pour la démystifier, dans le fond, pour se rendre compte comment nous la créons et nous y croyons. Pour nous ouvrir à une autre possibilité. Il est clair que si on veut découvrir une autre manière de voir le monde, tout d'abord, il faut arriver à lâcher prise à celle que nous avons. On ne peut pas s'ouvrir à une nouvelle manière de voir le monde si on ne questionne pas celle que nous avons en ce moment ou qu'on la considère uniquement comme une possibilité, mais pas la seule. Et pourquoi est-ce que ce changement d'instant en instant nous échappe dans le fond. Pourquoi est-ce que on ne le perçoit pas? Si c'est la réalité, ça devrait être évident. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui voile cette perception? C'est le concept. Le concept vient, lui, se substituer au vécu, et le concept donne le sens de la stabilité. Le concept est une généralisation qui se substitue au vécu lui-même, instantané, qui change d'instant en instant, et il donne cette impression de stabilité. Un peu comme si on voyageait et puis on prend des photos et puis on peut regarder sur son appareil, maintenant la chose elle est stable. Là, il y a le vol d'un oiseau, on le prend en photo, on regarde l'oiseau et puis voilà, on a quelque chose de stable. Et on le fait à chaque instant. C'est comme si on prenait des photos à chaque instant, c'est stable, c'est stable, c'est stable. Et cette photo-là, elle se substitue au vécu lui-même qui change. Donc ça peut paraître abstrait, mais on a déjà parlé des voitures qui circulent sur la route là-bas. Quand j'entends le bruit d'une voiture, ben, c'est une généralisation. J'entends le bruit d'une voiture. Ça vaut ici, ça vaut dans n'importe quel lieu où il y a des voitures, ça vaut pour n'importe quel moment de la journée, etc. Mais cet instant-là où j'entends, eh bien, ça se vit d'instant en instant. Il y a cette intensité, peut-être un peu moins forte, et puis ça augmente si la voiture s'approche de nous sommes, et puis ça diminue. Donc ce vécu, lui, il change d'instant en instant, mais la notion, j'entends la voiture, elle est complètement stable. À nouveau, on revient au niveau fonctionnel qui est utile. Si j'attends quelqu'un, on attend que Michel arrive avec la nourriture pour l'aider à peut-être à décharger, eh bien, cette notion-là est utile. Mais si on veut revenir au vécu et prouver la réalité pour ce qu'elle est, à ce moment-là, ces substituts qu'on met avec les concepts nous empêchent d'être vraiment en contact avec la réalité avant cette mise en boîte, si vous voulez, cette conceptualisation. Donc le fait constamment d'interpréter tous les vécus que nous avons en termes de savoir, c'est une voiture, c'est ceci, c'est cela, qui est utile, qui est plus simple, mais c'est une manière de nous couper de l'intimité à la vie. On a une sorte d'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est toujours cette conceptualisation, cette interprétation. On interprète les vécus et finalement on vit dans l'interprétation et plus dans le vécu lui-même. Une interprétation qui est stable, comme je l'ai dit, j'entends une voiture, ceci reste stable, mais qui nous coupe de la richesse du vécu et aussi cette conceptualisation est ce qui constitue les barreaux de la prison du samsara. donne cette stabilité. Dans les textes, il est dit, ce n'est pas la réalité qui nous conditionne, c'est nos points de vue. Nous sommes limités, nous sommes contraints par nos points de vue, par les croyances, par la conceptualisation et non pas par la réalité. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que ce n'est pas la réalité qui est problématique en elle-même. C'est notre rapport erroné par rapport à la réalité. Évidemment, c'est fondamental parce que si c'est la réalité elle-même qui nous conditionnait, alors il n'y aurait pas de libération possible. La réalité étant ce qu'elle est, donc nous devrions accepter cette limitation et autres. Mais si ce qui nous limite, c'est vraiment l'interprétation, la conceptualisation, alors là, on peut découvrir quelque chose, dépasser peut-être le fait de s'arrêter au niveau des concepts pour pouvoir explorer cet espace de liberté. Et c'est bien ce que vise la méditation. À nouveau, pourquoi la réalité, on s'en fout un petit peu, parce qu'elle est synonyme de liberté, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, si vous dites pourquoi la liberté, alors là, je peux rien pour vous. Donc c'est important pour aborder le problème de l'impermanence et de la temporalité de comprendre ce que représente le concept. D'une manière générale, si on parle de tulipe, voilà, vous voyez bien, bien ce que c'est, mais peut-être que si vous essayez d'être précis, ce serait difficile de dire de quelle couleur elle est cette tulipe. Parce que le concept, lui, il doit rester très général pour pouvoir, parce que si pour vous, tulipe, elle était rouge, on vous en montre une jaune, vous dire, ah tiens, c'est bizarre, c'est pas comme ça que j'imaginais la tulipe. Donc les termes conceptuels, ils doivent être suffisamment vagues pour pouvoir recevoir tous les éléments, les objets qui vont recevoir le même nom. Tulipe, maintenant, tulipe, est-ce qu'elle est juste en bouton? Est-ce qu'elle est en train de se faner? Si j'ai une tulipe ici, eh bien, elle a le droit de recevoir le nom de tulipe à toutes les phases. Il n'y a pas, non, non, c'est plus une tulipe, c'est une tulipe en bouton, c'est une tulipe qui se fane. Donc, ce concept-là reste parfaitement stable, alors que la perception ici que j'aurais de la fleur, ou la fleur elle-même, elle change d'instant en instant. Donc le monde est perçu dans cette stabilité. Vent, le vent. Ben, est-ce qu'il est froid ou il est chaud? Est-ce qu'il est fort ou il est léger? Est-ce que c'est une brise? C'est tout. Ce terme-là, il doit recevoir toutes ces possibilités. Mais le terme vent, lui, il va pas vous décoiffer. Arrête de penser au vent. Piaget demandait à des enfants, son interrogation très intéressante, il disait à un enfant, donne-moi un mot qui a de la force. Et l'enfant, il dit, le vent. Piaget demandait, pourquoi le mot vent, il a de la force? Il dit, bah, parce qu'il va vite. C'est extraordinaire, parce qu'on n'est pas loin de ça. On n'est vraiment pas loin. On fera un peu attention, parce qu'on dirait, tiens, il y a une attrape là, je fais attention, mais un. Instinctivement ou spontanément, on pourrait bien dire, alors le vent, ouais, c'est un mot qui a de la force. Vous voyez ici cette méprise entre le terme et ce qui est l'expérience ici du vent. Donc tous les termes, ils sont génériques, c'est des généralisations qui doivent pouvoir recouper beaucoup d'expériences différentes, mais qui nous coupe de ce que l'expérience dans l'instant a de singulier, qu'on ne peut pas nommer, même si on la décrivait de manière très détaillée, on resterait toujours dans des généralisations. Et si on devait décrire une personne qui descend l'escalier, là, peut-être comme faisait Hemingway, en prenant le temps de la description, le temps que la personne aurait besoin pour descendre les escaliers, ça restera une généralisation, parce que si on est là, on lit le roman. Peut-être qu'on imagine un escalier différemment, etc. Ça reste une généralisation. Donc même si on veut essayer d'être précis, le concept reste toujours quelque chose de général, qui ne peut pas avoir la richesse du vécu lui-même. Donc si on parle de fleurs, de tulipes par exemple, ben c'est pas une tulipe. C'est simplement une représentation qui surgit là dans cet instant. C'est pas un objet. Tulipe, le vent, comme je l'ai dit, il n'est pas ni froid ni chaud, il souffle pas, il va pas décoiffer. C'est simplement une représentation qui surgit là en moi, mais qui n'a aucune caractéristique du vent, qui a le sens, mais qui n'a pas les caractéristiques du vent. La pensée, le concept, n'a pas les caractéristiques de l'objet. Autrement, elle serait l'objet lui-même. Et ça, c'est très important pour la temporalité, de réaliser que le concept est simplement quelque chose qui surgit en moi-même. Si je porte un jugement sur une personne, elle est extraordinaire, elle est nulle. J'ai l'impression que ceci, je le découvre dans l'autre personne. Elle est extraordinaire, elle est nulle, mais en fait, il n'y a personne qui est extraordinaire ou nulle. La personne, elle est vivante. C'est simplement une représentation que je crois avoir à l'extérieur, mais qui est une croyance, une manière de penser. Si je cherche où est cette pensée, elle est extraordinaire, je verrai bien que je ne la trouve surtout pas dans l'autre personne. Elle n'a aucun aspect concret, ce n'est pas quelque chose de solide. Elle n'existe nulle part, cette pensée. Ce n'est pas comme un objet, comme une pierre qu'on rencontrerait au bord du chemin. Et ça, c'est important pour comprendre la temporalité. Que cette la pensée, elle n'a pas d'existence concrète, objective. C'est la conscience qui se manifeste sous l'aspect de ce sens. Montagne, tulipe, elle est extraordinaire, elle est nulle, etc. Mais si je crois que je pourrais la voir quelque part, elle n'est pas là. Vous imaginez, si les pensées étaient objectives, faudrait vraiment nettoyer la salle tous les jours. Donc ça n'a rien de solide. C'est simplement un aspect de la conscience qui surgit et qui disparaît, qui a un sens, mais qui n'a rien de concret. Et pourtant, nous donnons aux pensées un aspect solide qui est extrêmement contraignant. Avoir certaines croyances. Dans certains pays, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, quand je suis allé pour la première fois en Chine, les femmes avec des tout petits pieds, comme ça. Oui, la croyance que c'était un signe d'aristocratie parce qu'on ne pouvait pas travailler, mais c'est terrible. C'était plus fort que que je sais pas, les bandages qu'elles mettaient à leurs pieds pour les empêcher de croître. La solidité de la croyance. Un sens qui surgit comme ceci et comprend. Un sens d'ailleurs qu'on a bien de la peine à comprendre. Et pourtant, c'est contraignant et ça n'existe nulle part. Je donne une citation de Sartre que j'ai déjà donnée à plusieurs reprises, mais qui me semble assez éclairante. Il parle justement des mots, de la pensée ou du concept, si vous voulez. Il dit, le sens devient matière. Il en acquiert la consistance inerte. L'idée s'est épaissie, écrase l'esprit qui la supporte. C'est une pierre qu'on ne peut ni soulever ni rejeter. Pourtant, cette énorme masse est demeurée sens de part en part. On a vraiment l'impression qu'on sent cette pierre qui est le concept, la croyance qu'on ne peut plus soulever. Alors que dans le fond, elle n'est rien d'autre que le sens qui surgit dans l'esprit. Elle n'a aucune existence objective. Ce n'est pas une pierre au bord du chemin. Vous voyez pourquoi les textes disent, ce qui nous enferme dans le samsara, c'est les croyances, les points de vue et non pas la réalité. C'est toutes ces pierres comme ceci dont on fait notre prison. En ce qui concerne la temporalité, puisque c'est ce dont il s'agit et qu'il faut investiguer pour approfondir l'impermanence, je donne une citation de Simone Weil, qui est aussi lumineuse par rapport à la temporalité. Elle dit, à proprement parler, le temps n'existe pas. Mais notre soumission existe. Nous sommes réellement attachés par des chaînes irréelles. Le temps irréel voile toute chose et nous-mêmes d'irréalité. Sans bien, c'est la croyance dans la temporalité tout d'un coup qui est tellement contraignante. Sans temporalité, il n'y a pas de stress, même si la temporalité est un cadre de référence pratique, premier niveau, c'est important, on l'utilise. Mais quand on lui donne une réalité concrète, à ce moment-là, c'est cette pierre qu'on ne peut plus soulever. Donc essayez de bien comprendre ce qu'est un concept ou une pensée, qu'elle n'a aucune existence concrète, qu'elle ne se trouve pas là devant, mais qu'elle est l'aspect de ma propre conscience. Ce n'est pas un objet dans ma conscience, c'est l'aspect que prend ma conscience quand elle pense c'est bien, c'est pas bien, ou même quand elle l'imagine une montagne. Pas la trouver concrètement. Donc lorsque, parlant de la permanence, on dit que rien ne dure un instant, tout surgit et disparaît d'instant en instant. Mon vécu précédent, il a disparu. Il n'existe pas. Mon vécu successif qui va venir, là, il n'existe pas encore. Il n'y a rien, j'allais dire, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Mais comprenez que la notion avant et après, c'est déjà vouloir croire qu'on pourrait avoir une sorte de... C'est déjà être dans cette représentation spatiale. Il y a ce petit espace-là, puis il y a ce qui est avant, il y a ce qui est après. On le voit géométriquement d'ailleurs. Puis il n'y a rien là et rien là. Mais c'est déjà donner une réalité à cette notion avant et après. Donc, je veux dire, il n'y a plus rien. Quand on prend conscience des termes qui pour nous expriment la temporalité, hier, ce matin, on a l'impression que ces termes-là nous donnent du temps. Ils me donnent hier, me donnent ce matin, l'année passée. Hein. Mais en fait, cette notion, l'année passée, hier, etc., est simplement une représentation qui surgit dans l'instant. Si je crois qu'elle me donne quelque chose qui serait avant, c'est rien. Elle est juste là. Elle n'est pas plus concrète que quand je parle du vent, du mot vent. Je ne vais pas me décoiffer. Eh bien, ce terme hier ou ce matin ou l'année passée est simplement une représentation présente et rien d'autre. Elle n'est pas avant ni après. Maintenant, de vouloir se convaincre en disant ah, c'est juste une pensée, ça ne joue pas. C'est juste une pensée, mais quand même, hier, on a l'impression que c'est presque accessible. Si je tends le bras, j'arriverai peut-être à toucher hier. Donc, ce n'est pas une question de se convaincre, ah, c'est que des pensées. C'est d'arriver à prendre conscience de cette pensée, hier, ce matin, et de la percevoir comme étant quelque chose qui surgit dans l'instant. Et ça, c'est toute l'enjeu de la méditation dans ce contexte-là, c'est de remarquer que ces pensées particulières qui sont liées aux notions de temporalité, elles surgissent dans l'instant, elles n'ont aucune existence concrète. Hier n'a aucune existence concrète, ce n'est pas un temps, un moment, ni un lieu. Ce matin non plus, l'année passée non plus, c'est quelque chose qui surgit maintenant, qui n'existe pas dans la temporalité. Ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, mais quand même. Donc, il s'agit bien, dans notre pratique à nouveau, pas de se convaincre, parce que ça ne marche pas. De dire, ouais, c'est juste des pensées, etc. Ça ne marche pas, parce qu'on leur donne une certaine réalité. On ne va pas créer une autre pensée qui va nous en détourner. C'est vraiment percevoir cette pensée quand elle surgit, qui lie la temporalité, avant, hier, etc. Et puis de dire, de la voir, elle est là en cet instant. Voir, évidemment, ce n'est pas avec les yeux. C'est de réaliser qu'elle est juste là, ma conscience, ma présence, qui apparaît dans la forme de ce sens, qui est hier, qui est ce matin, mais qui n'est pas un autre temps. De même, en ce qui concerne après, demain, l'année prochaine, etc., de remarquer que cette pensée-là, elle surgit, c'est le sens qui surgit, cette représentation qui surgit dans l'instant, mais qui n'a aucune existence concrète, elle n'est pas là dans un temps futur. Donc à ce moment-là, ce qui surgit quand ces pensées de temporalité surgissent, on se rend compte que, d'une certaine manière, on ne quitte jamais l'instant présent. On le sait bien d'une certaine manière, parce que on essaye, mais sans être convaincu. On sait très bien qu'on ne peut pas en sortir, et pourtant, d'une certaine manière, on est toujours en train de donner une certaine réalité au passé, au futur. Donc reconnaître la nature d'une pensée, ici je parle de la temporalité, on peut reconnaître la pensée des jugements et autres aussi, ça nous libère de la même manière, mais pour la temporalité, tout d'un coup on a l'impression qu'on n'est plus dans ce schéma de durée, où on se baladerait sur la ligne du temps, comme ceci, on est à ce moment-là ou celui-ci, mais que dans le fond, on s'est libéré de cette notion de la temporalité. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai mentionné l'autre soir, alors, que on est une page blanche à chaque instant. Parce que je peux très bien que, en ce moment, je pense, si je pense à ah, l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé, etc., que cette pensée, elle va me conditionner, d'autant plus que je lui donne une certaine réalité. Donc il se peut très bien que pour une raison ou une autre, j'ai une certaine inquiétude, donc constamment, je garde en moi, à l'esprit, en cet instant, quelque chose, c'est-à-dire je le recrée d'instant en instant, je lui donne vie, je le perpétue d'instant en instant, qui me conditionne, mais il ne me conditionne pas depuis le passé, il me conditionne seulement depuis le présent. Il n'a aucun pouvoir de venir depuis le passé et me taper sur l'épaule, dire, dis donc. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, si on veut employer cette image de la temporalité, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Il n'y a même pas d'avant, même pas d'après. Parce qu'avant, c'est déjà vouloir se tourner vers quelque chose qui serait là. Il n'y a pas d'après, parce que ça serait encore vouloir se tourner, croire que quelque chose existerait. Comment l'après pourrait exister ou l'avant pourrait exister? Après-avant peuvent exister maintenant comme représentation. À nouveau, de le voir, de le reconnaître, et non pas d'essayer de s'en convaincre parce que ça joue pas. Donc ça demande de la pratique par rapport aux pensées, par rapport aux concepts, mais je crois que par la pratique méditative, on arrive tout d'un coup à se défaire de cette tendance à vouloir donner un aspect concret. Et ça, c'est pas qu'on perd quelque chose. Oh, mince, j'ai perdu 20 années, 30 années, 50, 80 années de ma vie, c'est terrible. Et puis, non, au contraire, c'est une immense légèreté dans les textes. Le Bouddha parle de l'aspect serein de la personne qui a réalisé l'impermanence. C'est comme si elle dansait dans la vie avec une immense légèreté. Elle est en phase. La temporalité, c'est quelque chose d'immensément alourdissant. Elle est en phase à chaque instant. Il y a une grande sérénité. Sans inquiétude, sans fardeau du passé qui serait solidifié, sans inquiétude par rapport au futur. Alors on peut se dire, c'est quand même un peu abstrait tout ça. À nouveau, il s'agit de le reconnaître. Mais ça a beaucoup d'implications pratiques. Par exemple, je pourrais penser, ben voilà, à mon âge, ben, il y a des capacités que j'ai perdues. Je vois mes nièces qui apprennent une langue à toute vitesse. Moi, pour me rappeler mes verbes portugais, j'ai beaucoup de peine. Donc voilà, ben, c'est quand même dommage, j'ai plus les capacités que j'avais à 20 ans, etc. Et ce n'est pas la seule capacité que j'ai perdue. Mais... Donc je pourrais très bien, d'une certaine manière, voir tout ce que je perds. Tout ce qu'avec l'âge je perds. Mais ce que je perds n'existe pas. Ce que j'étais à 20 ans n'existe pas. J'ai rien perdu. Je suis là avec ce qu'il y a. Tout ce que je pourrais imaginer avoir perdu, ça n'existe pas. J'ai rien perdu. C'est pas juste une manière de penser, c'est que ce que je voudrais avoir perdu, c'est pas. Ce que j'étais à 20 ans n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce que je suis en cet instant. Donc c'est quand même une manière d'aborder le vieillissement qui est très importante. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait se torturer avec toutes les capacités qui disparaissent, mais qui sont rien puisqu'on ne les a pas. Pour les jeunes, on pourrait imaginer la même chose, dans le sens inverse. C'est, ben voilà, quand je serai autonome financièrement, quand j'aurai mon appartement, ma voiture, etc. Mais dans le fond, ça n'existe pas. Il n'y a pas de quoi s'alourdir avec ceci. Et ça veut dire être en phase avec l'impermanence dans ce qui se passe maintenant, ça se passe maintenant. J'ai pas besoin de m'alourdir avec toute l'existence que j'ai de nos passés, qui devient extrêmement lourd. À nouveau, il faut le reconnaître. Si je dis, ben voilà, ce que j'étais avant, ça n'existe pas, mais si je me dis, ouais, mais quand même, ça, je le vois comme une sorte de solidité, ça ne va pas me libérer. Faut que j'arrive à voir que cette image ou peut-être cette pensée de capacité que j'avais qui ne sont plus là, que je me rende compte que c'est juste une représentation maintenant. Ce n'est pas la capacité elle-même, c'est une pensée de la capacité. Donc ça a un immense pouvoir libérateur qui allège immensément. Maintenant, on pourrait penser au futur aussi. Ben voilà, le futur, je me tourne, il n'y a pas d'après. C'est qu'une représentation qui surgit dans l'instant, après. Rien d'autre. C'est bizarre. C'est quand même bizarre, mais c'est qu'une représentation. Avant, c'est qu'une représentation. C'est quand même un peu décoiffant, ça, parce qu'on a quand même l'habitude d'avoir cette notion de temporalité. De la même manière pour penser à la mort. On dit, ben voilà, on a l'impression qu'il y a un futur qui resterait comme cette partie de parcours que je devrais encore parcourir. Voilà, il me reste ça. Bon, je ne suis pas vraiment sûr, mais enfin, il reste ceci. Et si tout d'un coup la mort venait, ben, elle me lèse de cette partie-là que je devais encore faire. Mais cette partie-là n'existe pas. À nouveau, il s'agit de le voir dans la représentation, que cette représentation de cette sorte de laps de vie dont je devrais disposer, ça ne veut rien dire, ce n'est pas une réalité, c'est de l'imaginaire que je peux avoir dans l'instant, mais n'a pas du tout d'existence concrète. À ce moment-là, la mort n'est pas le fait de nous dérober de quelque chose qui serait notre droit, ce laps de temps qui est là, qui attend d'être parcouru par nous, parce qu'il n'y a pas de laps de temps futur qui nous attend. Surgissement, disparition, surgissement, disparition, surgissement, disparition. Pas de surgissement. On n'a pas été lésé de quelque chose. Nouveau, c'est pour ça que j'ai dit qu'il s'agirait de le montrer, pas de le démontrer, parce que rationnellement, si ce n'est que d'amener un petit peu le doute dans notre certitude de la temporalité, mais il s'agit vraiment d'en faire l'expérience dans la méditation, et on peut le faire. Nous avons, un terme que j'aime pas beaucoup, nous avons les outils, nous avons le contexte qui nous permet d'explorer ceci et qui est libérateur. On n'est pas juste là pour s'asseoir, pour être un peu tranquille et calme, même si c'est bien d'être tranquille et calme, il n'y a pas de problème, et ça aide d'ailleurs, mais on est vraiment là pour explorer ce qui nous contraint et nous libérer de ceci. C'est la richesse du chemin méditatif. Et l'impermanence a un pouvoir immense. Non pas comme perte, au contraire. Comme manière de découvrir cette manière d'être en phase avec la réalité dans une grande légèreté et grande liberté. Je voudrais finir par une citation que j'ai un peu transformée de Nietzsche, mais je l'aime bien, je la trouve assez inspirante. Il dit l'illusion d'un absolu immuable est mort. Sur l'océan, l'horizon s'ouvre à nouveau. Marin hisse les voiles. Il y a des contrées à découvrir. C'est ça, quand on s'ouvre à l'impermanence, c'est un peu ça. L'horizon s'ouvre à nouveau de manière très différente. Il y a des contrées à découvrir. Et cette contrée à découvrir, c'est la contrée de l'instant, sans vouloir en faire une sorte de réalité. C'est la contrée de leur temporalité qui est à découvrir dans ces nouveaux horizons. Donc l'impermanence, ce n'est pas quelque chose de déprimant, au contraire, c'est vraiment quelque chose d'immensément riche et de libérateur. Même si quelquefois, lorsqu'on mentionne impermanence, les gens commencent déjà à se raidir, comme si c'était quelque chose de désagréable, mais c'est pas, c'est l'inverse, c'est quelque chose de libérateur et de léger. Voilà donc quelques réflexions sur l'impermanence pour vous encourager aussi à l'explorer dans la pratique, quand surgissent ces notions de avant, après, hier, etc., d'essayer de prendre conscience de qu'est-ce que cette pensée d'hier et avant pour découvrir qu'elle n'est qu'une représentation dans l'esprit à ce moment-là, qu'elle n'a pas d'existence concrète. Donc c'est à ce moment-là, on s'enlève un immense fardeau. Voilà donc. Quelques réflexions sur l'impermanence, et puis maintenant, vous pouvez pratiquer pendant une demi-heure la méditation marchant, et nous retrouverons pour une courte méditation. 15 minutes.